ist denn das für ein schöner Sonntag? Was ist denn das für ein schöner Tag?
Freizeit, heute ist ein Tag ohne Arbeit. Heute ist ein Tag voller Schmuck.
Heute mach ich mir ein Ei zum Frühstück und erlege nebenbei so jede Stinkbrück. Und dann pediküre ich die Füße. Es wird ein Sonntag werden voller Süße.
C'était les Reines prochaines. Quel joli, qu'est-ce que c'est que pour un joli dimanche dans Une femme, Remue Ménage, Radio Zone 93.8. Alors Viviane, on avait envie de revenir au travail de nuit et essayer de comprendre pourquoi le patronat, le monde économique a tellement intérêt, tellement envie de réintroduire ce travail de nuit. Quel est l'avantage, quelles sont les visées derrière cette pression?
Bon, de réintroduire. Bon, il y a du travail de nuit.
Oui, il y a. Non, de généraliser. Oui, c'est juste, c'est pas le bon mot.
Aujourd'hui, il y a, disons, trois raisons fondamentales pourquoi est-ce qu'on fait du travail de nuit. Hein. Le premier, c'est les besoins sociaux. On en a parlé. C'est effectivement, il y a un besoin. On doit être soigné jour et nuit. Les pompiers doivent être jour et nuit. L'énergie doit être contrôlée jour et nuit. Donc, il y a ce besoin social qui impose du travail de nuit. Bien qu'on peut même remettre en question la notion même de besoin social, parce que est-ce qu'on a vraiment besoin de lire le matin, hein, je m'excuse, le matin, on ne pourrait jamais le lire du tout, mais disons, on peut même attendre, avec le type de nouvelles qu'il y a ces temps dans la presse, on pourrait attendre midi pour la lire. On n'a pas besoin d'avoir à 6 heures du matin ce journal. Donc là aussi, le besoin social, il a des dimensions culturelles. Ensuite, il y a des entreprises qui ne peuvent pas arrêter la nuit ou le dimanche, qui doivent continuer parce qu'il y a des processus qui, par exemple dans la chimie, il y a un processus de synthèse, il dure, 18 heures, on ne peut pas l'interrompre au milieu. Donc il faut qu'effectivement, il puisse durer toute la nuit. Ou une cimenterie, un haut fourneau, on ne peut pas l'arrêter parce que ça met 3 mois pour le relancer. Donc effectivement, il y a des procédés techniques qui exigent du travail de nuit. Et puis, de plus en plus, il y a du travail de nuit qui est demandé pour des raisons économiques ou pour répondre à la demande. Et alors là, ça nous pose le problème de comprendre un petit peu qu'est-ce qui amène effectivement aujourd'hui à cette demande accrue de travail de nuit. Et moi, j'aimerais dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, la loi, la campagne du côté des patrons, c'est dire face à la crise, la globalisation, parce que c'est vraiment un refrain qui commence à être saturé de ce refrain. On a besoin du travail de nuit, mais c'est en fait les restructurations au niveau des entreprises, elles ont commencé il y a 20 ans et c'est ce type de restructuration qui amène à ce besoin de flexibilité. Alors par exemple, la plupart des il y a trois grandes modifications, si on veut, de l'organisation du travail qui amènent à ces besoins de flexibilité. Le premier, c'est ce qu'on appelle le flux tendu. Alors c'est un terme un peu sauvage. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire le flux tendu ? En gros, ça veut dire qu'on commence à fabriquer votre voiture au moment où vous la commandez. Je commande ma voiture, et ben voilà, on lance la fabrication. Donc en fait, il n'y a plus de temps entre fabrication et vente. Les choses sont déjà vendues au moment où elles sont fabriquées. Donc c'est ça le flux tendu. Ça veut dire entre autres qu'on ne fait plus de stock. Avant, on a toujours fonctionné dans des entreprises en fabriquant du surplus qui était stocké. Puis au moment où il y avait une demande, eh bien on puisait dans le stock. Aujourd'hui, on ne fait plus de stock. Ce qui veut dire qu'au moment où il y a la commande, il y a immédiatement la production qui se met en marche. Ce qui veut dire que quand il n'y a pas de commande, il n'y a pas de production, donc du chômage technique. Et puis quand il y a une commande, alors il faut travailler plus. Donc on demande des autorisations pour travailler la nuit ou des heures supplémentaires, etc. Donc en fait, on fluctue entre heures supplémentaires, travail de nuit et chômage technique. Ça, c'est une des premières réorganisations. La deuxième réorganisation, ça a été la délocalisation. C'est-à-dire qu'en fait, une grosse entreprise, si vous prenez Renault, il y a 10 ans, il y avait 30 000 employés. Maintenant, je crois qu'il n'y en a plus que 4 000. Parce qu'en fait, tout a été, la plupart des pièces sont sous-traitées ailleurs. Donc en fait, les grosses entreprises, elles se sont démantelées en sous-traitant la plupart de leur fabrication. À Renault, on ne fabrique plus que quelques pièces du moteur et éventuellement le châssis. Tout le reste est fabriqué ailleurs, dans d'autres entreprises, avec des conditions de travail beaucoup moins bonnes, parce que cette délocalisation, c'est aussi une délocalisation des mauvaises conditions de travail. Donc, si Renault lance la chaîne, le châssis arrive sur la chaîne, il y a immédiatement un ordinateur qui génère une commande pour fabriquer le siège bleu qui doit aller dans la Renault, et qui va être transporté ensuite par route la plupart du temps pour monter cette voiture. Alors, cette délocalisation lié au fait qu'il n'y a plus de stock, induit aussi du travail de nuit dans ces par boule de neige. C'est-à-dire, Renault fait une commande et l'entreprise qui fabrique les sièges, eh bien, elle doit faire du travail de nuit, des heures supplémentaires, parce que pour répondre à cette commande, parce qu'elle ne fait plus de stock. Et puis, quand il n'y a plus de commande, eh bien, elle met les gens en chômage technique. Autre réorganisation, c'est au niveau de la masse d'employés. Parce que une production, elle est toujours fluctuante. Hein. On n'a pas le même niveau de production ça fluctue au cours de l'année. Par exemple, si on prend les maraîchers, c'est évident, non ? Il y a beaucoup d'activités l'été, il y a peu d'activités l'hiver. Il y a la semaine, mais aussi dans la journée. On voit bien avec le commerce, hein, il y a des moments où il y a beaucoup de travail et puis d'autres moments où il y en a moins. Et si on calcule le nombre d'employés en fonction du minima d'activité, ou si on le calcule en fonction d'une activité moyenne ou d'une activité maximale, eh ben, ça va complètement modifier les données du problème. Aujourd'hui, on calcule les employés fixes au minima d'activité. Ce qui veut dire que pour répondre aux pointes, eh bien, on fait appel aux heures supplémentaires, aux intérimaires, au travail de nuit. Donc si on prend ces trois réorganisations, plus de stock, délocalisation, minima d'employés, on arrive à ces demandes accrues de travail de nuit, mais qui ne sont pas nécessairement liées toute l'année. C'est souvent des booms où on doit faire du travail de nuit, et puis d'autres moments où justement on n'a plus de travail du tout, on met les gens en chômage technique. Parallèlement à ça, il y a l'envie effectivement de rentabiliser très très vite les machines, mais c'est pas qu'elles coûtent plus cher, elles sont amorties très vite aujourd'hui. Avant, on pouvait penser qu'une machine était amortie en 10 ans, aujourd'hui elle est amortie en 3-5 ans. Alors c'est vrai que faire tourner les machines 24 heures sur 24, elles s'amortissent encore plus vite. Donc là aussi, il y a une économie qui est faite par les entreprises. Mais à mon avis, le besoin de flexibilité, il est vraiment lié à ce type d'organisation du travail, plus qu'à des problèmes économiques rencontrés par les entreprises. Parce qu'une entreprise qui est en crise économique, elle ne va pas répondre, elle ne va pas résoudre ses problèmes en faisant travailler plus ses employés, bien au contraire. Et par rapport à ça, on voit bien, j'ai donné l'exemple des magasins. Aujourd'hui, on a pu lire dans la presse que de plus en plus, on fait ce qu'on appelle le travail sur appel. Hein. Mm-hmm. Alors le travail sur appel, ça sert justement à boucher ces moments où il y a plus d'activité.
Précisons peut-être ce que c'est.
Alors ça veut dire qu'on appelle une vendeuse en disant, bon, aujourd'hui, c'est 3 semaines avant Noël, il va y avoir beaucoup de clients, vous venez travailler. Et puis demain, on n'a pas besoin de vous. Et puis, etc. Donc, la personne, elle est appelée, elle ne sait jamais, en fait, d'une semaine à l'autre, qu'est-ce qu'elle va gagner, combien d'heures elle va travailler, etc.
Et officiellement, elle est engagée par le lieu de travail en question ?
Oui, en fait, c'est un contrat de durée indéterminée. Simplement, le nombre d'heures minimum n'est pas fixé. Et donc, la personne est en constante attente qui n'est absolument pas payée. Et lorsqu'on l'appelle, elle va venir travailler, elle sera payée. Donc, il n'y a aucune garantie de revenus avec ce type d'emploi. Et c'est de plus en plus fréquent. Donc, c'est une autre forme de flexibilisation des conditions de travail. Et ça amoindrit, évidemment, la protection. Et ça, c'est d'ailleurs assez typique. D'un travail féminin. En règle générale, jusqu'à aujourd'hui, c'était plutôt les femmes qui assumaient qui avaient ce type de contrat. Aujourd'hui, ce type de contrat s'étend aux hommes comme aux femmes.
Donc, c'est la suppression du travail temporaire pour ça, parce que le travail temporaire, c'est les gens qui peuvent un peu plus choisir quand ils veulent travailler. Là, c'est l'inverse. On impose une disponibilité encore plus grande. Ça coûte trop cher, le travail temporaire ?
Non, le travail temporaire ne disparaît pas non plus. C'est associé au travail temporaire parce qu'il y a toujours besoin de... ou alors au moins que ces gens soient effectivement considérés comme des temporaires à vie. Il y a aussi une autre forme qui est aussi assez spéciale et qui met les gens dans des situations très difficiles. C'est qu'on engage les gens, cette fois-ci avec un contrat fixe, éventuellement des horaires fixes, mais uniquement pour venir au moment où il y a un boom d'activité. C'est le cas, par exemple, de certaines caissières ou ou à l'hôpital également, on fait ça. Alors, ça nous fait des horaires où la personne, elle travaille de 10h à 1h, et puis après, elle est en congé, puis elle recommence à travailler de 4h à 6h, par exemple. Alors, on dit, mais c'est du travail à temps partiel, ça convient à tout le monde, mais ce n'est pas vrai, c'est très dur, parce que arrêter 3 heures au milieu, recommencer, ça veut dire qu'on ne peut rien faire, surtout si en plus on est frontalier, qu'on a une demi-heure ou une heure de transport par jour, c'est absolument impossible de s'organiser, ce qui fait des journées très très longues, de fait, où la personne est à disposition. Je crois que c'est vraiment ça que les patrons essaient d'organiser, c'est que les gens soient à leur disposition.
Alors, bon, peut-être maintenant, il est temps d'aborder quelles sont les réactions possibles. Alors, on sait qu'on a l'utilisation d'un bulletin de vote d'ici au 1er décembre. Est-ce que ça suffit? Est-ce que les syndicats envisagent que la seule façon de contrer toutes ces changements, cette déréglementation, ça se réglera par un bulletin de vote mis dans l'urne?
Non, bien sûr que non. C'est-à-dire que face à toutes les modifications, l'activité syndicale doit avoir plusieurs niveaux. Évidemment, l'objectif numéro un des syndicats, c'est de modifier cette loi à terme. Alors évidemment, on a face à nous une vague quand même relativement forte, et ça mérite que, disons, la valeur de l'action syndicale soit redémarre de façon encore plus, de manière plus forte. Donc l'objectif, je crois, c'est évidemment d'essayer de s'organiser, et c'est la vieille méthode, s'organiser dans chaque lieu de travail et trouver des formes pour imposer une autre valeur au travail et une autre façon de travailler. Et je crois que une des revendications premières des syndicats aujourd'hui, c'est au contraire d'aller dans le sens d'une diminution très importante de la durée du travail. Cette diminution importante de la durée du travail est nécessaire pour non seulement travailler toutes et tous, ça veut dire que les personnes qui actuellement sont sans emploi en trouvent, d'une part, et deuxièmement que pour que hommes et femmes on travaille, que la répartition du travail, qu'il soit salarié ou non salarié, soit plus égale, il est nécessaire d'aller dans le sens de cette diminution du temps de travail. Et ça, c'est pas, absolument illusoire. Simplement, il faudra se donner des moyens d'organisation certainement plus forts que ceux dont on dispose aujourd'hui. Et ce d'autant plus que, comme on le disait auparavant, la productivité du travail augmente. Ça veut dire que, évidemment, ça génère une augmentation de bénéfices aussi important. Je crois que ça, on est toujours en train d'oublier que la répartition des richesses est au cœur de notre préoccupation, et que des richesses immenses sont aujourd'hui produites. Simplement, elles sont évidemment très mal réparties. Donc lorsque l'on parle de diminution de temps de travail, il s'agit bien évidemment toujours de parler de la répartition de la richesse produite.
Je pense en plus que la votation du 1er décembre, c'est une votation test. Elle dépasse le contenu de cette loi. C'est un véritable test pour la Suisse d'un projet de société. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un choix social. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, on veut aller vers cette dérégulation totale, ou est-ce qu'on veut garantir une certaine qualité de vie, de travail et de citoyenne et de citoyen à l'intérieur de ce pays? Et c'est ça, à mon avis, le véritable enjeu. Parce que les patrons, s'ils gagnent ça, ils iront beaucoup plus loin. Et je vois mal comment on pourrait les arrêter. Donc, je pense que c'est important de leur donner un signal très clair, de dire non, mais alors là, poussons pas le bouchon. Hein.
Bon, c'est vrai que, si je peux me permettre une constatation, un état d'âme, l'autre jeudi passé, on avait une assemblée générale de la fonction publique, et on décide en fin de cette assemblée d'accepter les propositions virtuelles faites par le Conseil d'État genevois, et les seuls qui ne sont pas d'accord avec ça et qui seraient d'accord de continuer la lutte, ce sont, comme par hasard, les employés de la fonction publique manuels, avec les salaires les plus bas, et c'est ceux-là qui sont prêts prêts à lutter et les autres qui sont prêts à accepter les maigres miettes et en plus la plupart virtuelles qu'on leur propose. Je crois qu'il y a quand même quelque chose d'assez inquiétant dans la notion de solidarité et l'idée de donner un signe clair. Je ne sais pas, toi Valérie qui est au cœur d'un syndicat, quelle est justement l'évaluation que tu fais à l'heure actuelle de ça? Est-ce qu'on doit se piquer sacrément pour donner une réelle forme à ce mouvement de solidarité vers ce choix de société où on est en train de se casser en deux parmi, de créer un fossé même à l'intérieur même des propres travailleurs, nous-mêmes?
Oui, non, je crois qu'il est absolument temps de se réveiller. C'est-à-dire qu'on a vécu comme ça en Suisse sur la fameuse paix du travail où les choses se passaient relativement bien, où il y avait vaguement des répartitions qui se faisaient et où les négociations étaient relativement faciles. Aujourd'hui, on est dans un contexte tout à fait différent et je ne suis pas encore convaincue que tout le monde se soit aperçu du changement et de la teneur des ambitions patronales. Donc aujourd'hui, évidemment, il s'agit de se réveiller. Il y a toujours un discours extrêmement contradictoire qu'il s'agit de dévoiler. C'est-à-dire que le patronat tient le discours suivant. Finalement, c'est pas très important d'avoir des lois. Ce qui est important, c'est de négocier des conventions collectives, de s'entendre entre partenaires sociaux parce qu'on se comprend, on est dans la même branche, enfin, etc. Et ça, c'est évidemment un discours totalement prétexte parce que on le constate ces jours, enfin, ces mois derniers. Il y a eu des offensives très, très, très fortes de la part des employeurs sur les conventions collectives, c'est-à-dire par des dénonciations dans la santé privée, dont je m'occupe plus particulièrement. Deux conventions collectives ont été menacées de disparaître complètement. Donc il a fallu réagir de façon importante pour contrer cette offensive. Et il est évident que tant au niveau des lois qu'au niveau des conventions collectives, il y a des attaques massives qui sont faites sur les conditions de travail. Et voilà, donc l'autre aspect, je crois, c'est que je crois qu'il serait temps de constater que ce qui se passe dans le public ou ce qui se passe dans le privé, c'est de même nature. Et qu'il est plus possible d'envisager des luttes seulement dans un seul secteur. Et c'est un peu, disons, une des valeurs qui nous paraît important aujourd'hui au site en particulier, c'est la notion interprofessionnelle, c'est-à-dire que la seule défense secteur par secteur ne suffit plus. Il s'agit de trouver des moyens de mettre en route à la fois les secteurs du public et du privé. Ça doit être une réponse commune qui doit se faire. Et que petit à petit, on se rende compte que les intérêts des uns et des autres sont des intérêts communs. Et donc, il faut trouver des formes de lutte qui aillent ensemble.
Viviane, tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, je pense que à travers cette loi sur le travail ou à travers les différentes attaques patronales dont on a pu parler, c'est que ce soit ces contrats à l'appel, que ce soit l'individualisation, le salaire au mérite dont on parle, que ce soit ces horaires flexibles, etc., etc. Il y a aussi derrière le risque et peut-être la volonté de casser le collectif de travail. Et en fait, on vient à quelque chose de contradictoire parce que pour faire un travail, on ne le fait pas seul. Un travail, quel qu'il soit, il a une dimension collective. Et cette dimension collective, elle est essentielle à la fois pour l'identité des gens. Ils savent que, voilà, ils font partie de ce groupe-là, de cette boîte, de ce groupe social, mais à la fois aussi pour la productivité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas produire quelque chose tout seul. La production dans une entreprise, c'est le résultat résultat d'un travail collectif. Et cette manière d'essayer de casser ce collectif, d'avoir que des individus face à eux, inorganisés, non protégés, sur lesquels, comme on l'a dit, on peut faire jouer tous les chantages, à mon avis, ça introduit des faiblesses aussi au niveau de tout le système productif, pas seulement au niveau de l'individu. Je pense que c'est un mauvais calcul pour les patrons, c'est un calcul à très court terme, et on le voit bien aujourd'hui avec ce qui se passe en France, avec la grève des transports. Moi, je trouve qu'elle est très très parlante, parce que justement toute cette désorganisation, cette déstructuration des entreprises avec délocalisation, elle ne se base que sur les transports. Hein. Les transports ont triplé, tout passe par la route, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut tout bloquer en faisant une grève des transports. Donc on voit en fait que cette flexibilité qui est demandée par les patrons, elle devient en fait, elle aboutit à un système totalement rigide, à la fois pour les gens. On voit bien avec le système par appel, hein, on est complètement fixé toute la journée devant son téléphone, mais aussi, à mon avis, pour le travail en tant que tel, parce que c'est, si on perd cette dimension collective, à mon avis, on arrive à plus rien produire. Et il y a la semaine dernière, je crois, un article dans le Courrier qui dénonçait aussi le salaire au mérite, en montrant bien que ça ne peut pas marcher, parce que justement, le travail, c'est un travail collectif, l'addition des travaux individuels n'aboutit pas à un travail collectif. Le travail collectif, c'est encore autre chose.
Alors, nous arrivons au terme de cette émission. Je ne sais pas si chacune veut encore rajouter quelque chose comme mot de la fin.
Moi, j'aimerais juste dire qu'il y a certaines personnes qui ont dit que finalement, par exemple, le travail de nuit était une activité polluante. Polluante, pourquoi? Parce qu'elle externalise le coût sur la société dans son ensemble, comme c'est le cas pour une pollution. C'est-à-dire que c'est la société dans son ensemble, à travers le coût de la médecine, le coût de la santé, à travers tous ces coûts-là, qui finit par payer les méfaits du travail de nuit, et qu'on devrait éventuellement appliquer le même principe du pollueur-payeur aux industries qui font du travail de nuit.
Oui, simplement, je crois que pour toutes celles et tous ceux qui ont le droit de vote, il serait temps d'aller porter son enveloppe en courrier A et dire non à cette loi, ou alors se rendre aux urnes en nombre pour vraiment empêcher cette loi qui n'est que, au fond, une loi régressive fondamentalement, et une loi qui n'est qu'au seul bénéfice du patronat.
Et puis, il ne faut pas oublier de dire aussi non à la loi xénophobe proposée par l'UDC, donc, qui veut réduire, qui veut bloquer l'arrivée des réfugiés en Suisse.
Donc, vraiment, un 1er décembre, jour de votation, qui table beaucoup sur un projet de société différent. Et je crois que, Viviane, quand tu disais cette votation sera certainement un test et un signe bien plus global que celui d'approuver ou non une loi, je crois qu'il est temps de montrer qu'on a envie de défendre un autre type de société que celle qui est en train de s'installer à grands coups de force. D'ailleurs, quant à elle, j'arriverai. Tracy Chapman, elle pense qu'il faut prendre un nouveau départ et recommencer à zéro parce que tout le reste est si mauvais.
I'm can break the cycle. We can break the chain. We can start all over in a new beginning. We can learn, we can teach, we can share the myths, the dreams, the prayers, the notion we can do better. Change.